L'intermède philosophique, une chronique présentée par Camille Escamilla.
Le droit et la force. Nous les pensons d'abord comme des opposés. En effet, les rapports de force nous apparaissent comme violents, dissymétriques, puisque le plus fort triomphe nécessairement du faible. Alors que les rapports de droit, eux, sont considérés comme non-violents, protégeant les faibles grâce aux lois instituées. C'est que le droit est indissociable de la règle. Le mot « droit » lui-même dérive du bas latin « directum », signifiant à la fois « direction et directive », c'est-à-dire « norme de conduite »,« règle ». Le droit est donc prescriptif. Il énonce ce qui doit être, précisément parce que ce qui est, le fait, est violent. Le droit substitue ainsi la loi humaine, la loi écrite, à la loi du plus fort, c'est-à-dire finalement la loi naturelle. Eh bien, cette opposition constitue le sujet du western de John Ford, L'homme qui tua Liberty Valance. On y découvre combien la conquête de l'Ouest a réclamé des colons qu'ils pacifient leurs propres relations, qu'ils substituent le droit à leur propre violence. C'est ainsi que l'homme de loi Stoddard, joué par James Stewart, voulant s'installer dans la petite ville de Shinbone, est violemment attaqué dès le soir de son arrivée par le voyou local, Liberty Valance, qui fait régner la terreur. Voici un court extrait où, recueilli par les braves gens de Shinbone, Stoddard y fait une triste découverte.
Vous dites qu'il s'appelle comment, l'homme à la cravache? Aux deux bacs d'argent, l'individu qui m'a frappé?
C'est Liberty Valance. Mais si t'as l'intention de lui demander des comptes, prends ce petit joujou-là, il te sera utile.
Non, c'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin d'un revolver. C'est pas le tuer que je veux. C'est en prison que je veux le faire aller.
Oh? Tu veux t'en tenir à la loi, comme dans tes bouquins. Mais ici, c'est zéro. Ici, un homme doit tout régler par lui-même, mon vieux.
Oui, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de me dire? Vous êtes en train de dire exactement ce que Liberty Valance a dit. Mais dans quelle espèce de monde suis-je donc tombé? Vous semblez tous savoir qu'un individu est Liberty Valance et que les activités auxquelles il se livre sont le pillage, le meurtre et le vol. Mais la seule recommandation que vous me fassiez est de porter un revolver. Je suis pas un tueur, moi. Je suis Hans Stoddard, avocat à la cour.
Eh oui, le pire est bien là. La loi du plus fort est reconnue, acceptée par ceux-là même qui la subissent. Stoddard n'aura de cesse de vaincre Valance et la loi du plus fort qu'il incarne en instaurant le droit. Nous y reviendrons à la fin. Dès lors, la question qui se pose pour nous est la suivante. Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que là où le droit règne, la force a été vaincue? L'analyse que nous avons menée correspond-elle à la réalité que nous connaissons, réalité caractérisée par la présence du droit, par le fait même du droit? Autrement dit, sommes-nous assurés d'être libérés de tout rapport de force? Blaise Pascal, les lois auxquelles nous obéissons ne sont jamais qu'une force. Leur existence même suffit à les définir comme telles. Instituées, déterminant notre obéissance, elles sont bel et bien de l'ordre d'une puissance et ne sont que cela. Pascal va même jusqu'à dire, je cite, « La justice est ce qui est établi, et ainsi toutes nos lois seront nécessairement tenues pour justes sans être examinées puisqu'elles sont établies. » Pascal est ici dérangeant, car contrairement à ce que nous croyons, à savoir que les lois sont en vigueur parce qu'elles sont justes, il affirme qu'inversement, c'est leur établissement qui les rend justes. Dès lors, on l'aura compris, il suffit un droit d'exister pour être juste, et dans cette mesure, si tout droit est légitime, il faut toujours obéir au droit en vigueur, au droit positif. Voilà une position surprenante, car elle est à la fois sceptique, désabusée. Si la justice, en effet, procède du fait, que vaut-elle? Il n'y a jamais que des justices, ironise d'ailleurs Pascal dans bon nombre de ses pensées. Position donc sceptique, mais pourtant conservatrice, puisqu'il faut obéir. Ce paradoxe tient d'abord au fait que Pascal a connu les désordres de la Fronde et voit dans la guerre civile le mal absolu. Mais aussi et surtout au statut du péché originel dans sa pensée. Il est le nœud de notre condition. C'est la faute d'Adam dont nous avons hérité qui nous a fait perdre la connaissance de la vraie justice et la possibilité de l'instaurer. Dès lors, je cite, « Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force ». Cette justification de la force consiste pour Pascal à maintenir le peuple dans l'illusion d'un fondement des lois et d'un fondement qui les arracherait à toute force. Car le peuple, écrit Pascal, est sujet à se révolter dès qu'on lui montre qu'elles ne valent rien, ce qui se peut faire de toutes en les regardant d'un certain côté. Résumons-nous. Tout droit n'instaure jamais qu'un rapport de force auquel nous devons nous soumettre, puisqu'il a le mérite de nous protéger de la violence généralisée, de l'insécurité. Nous ne pouvons espérer mieux en raison du péché qui a tout corrompu. Mais alors, me direz-vous, Pascal ignore-t-il les dangers du pouvoir? Élude-t-il le problème de la tyrannie? Pire encore, ne fait-il pas le jeu des tyrans? En réalité, notre philosophe s'est confronté au problème. Il définit la tyrannie comme, je cite, « désir de domination universelle et hors de son ordre ». Cela veut dire que le tyran est celui qui veut des avantages qui ne sont pas ceux lui revenant en propre. Le tyran veut, écrit-il encore, avoir par une voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre. Bref, pour Pascal, le tyran est dans la confusion et la confusion des règnes. C'est le cas par exemple d'un prince, d'un noble, qui régnant par la puissance, veut plus que la crainte et l'obéissance qui lui sont dues, en attendant, en réclamant l'estime due à l'ordre de la science ou encore l'admiration due à la beauté. C'est ainsi que Don Salluste, joué par Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, illustre parfaitement cette confusion des ordres propre au tyran. Écoutons ce qu'il demande à son valet Blaze au sortir de son bain.
« Et maintenant, Blaze, flattez-moi. »
Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne.
C'est pas une flatterie, ça, c'est vrai. Alors ?
Imbécile.
Qu'est-ce que vous dites ?
Non, imbécile que j'ai répondu au valet du duc d'Albe. Non, non, mon maître n'est pas le résultat de mariage consanguin. Tu l'as pas regardé, qui me dit ? Ah ben, il faut pas se fier aux apparences que j'y réponds. C'est pas parce que sa mère avait épousé le demi-frère de sa tante, qui était elle-même la cousine germaine de la sœur de son père, qui...
Êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça ?
J'avais pensé à autre chose, mais j'ose pas.
Tu osais ? Je vous osais, allez-y.
Monseigneur est beau.
Pour revenir à Pascal, sa description de la tyrannie n'est pas inintéressante. Elle voit juste, puisque nous savons combien le désir d'être aimé de certains gouvernants va de pair avec leur despotisme. Toutefois, un problème demeure. Celui de la recommandation de se soumettre à tout pouvoir en place, au motif qu'aucun droit ne saurait être autre chose qu'un rapport de force. Et donc, est-il si vain, si illusoire que cela, d'attendre du droit qu'il nous fasse échapper au rapport de domination? Pour répondre à cette question, tournons-nous vers Rousseau. Car pour lui, contrairement à Pascal, les droits en vigueur ne sont pas légitimes du fait même de leur existence. À moins de confondre le droit et la force, à moins de reconnaître un droit du plus fort. Dans un texte de génie, extrait du Contrat social, Rousseau démonte ce prétendu droit en faisant éclater l'irréductibilité du droit à la force. Car seul le droit oblige, c'est-à-dire nous fait obéir en conscience, volontairement, alors que la force ne fait que contraindre. Nous nous y soumettons par nécessité. La force ne saurait donc constituer la moindre légitimité, d'où le paradoxe de sa faiblesse. Les tyrans, ceux qui ont conquis le pouvoir par la force, le savent bien, se sachant haïs, ils craignent toujours d'être renversés. Citons Rousseau. Qu'est-ce qu'un droit qui périt lorsque la force cesse? S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir. Et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. Dès lors, la question devient, quand donc le droit est-il vraiment droit? N'est-ce pas justement quand le pouvoir instauré est lui-même légitime? Car un tel pouvoir se doit d'arracher les hommes à la violence, à la domination, par le biais d'une autorité qui ne soit pas elle-même une forme d'oppression, une autorité qui respecte la liberté. Ce pouvoir répond donc à l'exigence que Rousseau formule ainsi. Trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. C'est la démocratie qui constitue pour Rousseau cette association. Là où le souverain n'est pas une personne en particulier, mais le peuple recherchant l'intérêt général. La liberté y coïncide avec l'autorité dans la mesure où chacun est à la fois citoyen, c'est-à-dire membre actif de l'autorité souveraine, et sujet en tant qu'il est soumis à cette autorité. À cette condition seulement, le droit est au service de tous et peut remplir sa fonction. Mais Rousseau a employé l'expression « force commune ». C'est qu'un droit sans force serait inefficace. Chaque individu, écrit-il, peut comme homme avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu'il a comme citoyen. Le droit ne peut nous protéger qu'en recourant le cas échéant à la contrainte, il doit savoir et pouvoir punir. Si donc le droit n'existe comme tel qu'en se distinguant de la force, il ne peut pourtant être effectif sans elle. Cette dépendance du droit à la force revêt une forme extrême pour ne pas dire ambiguë dans le western évoqué au début de cette émission. Ransom Stoddard, l'homme de loi qui a contribué à faire régner le droit dans l'Ouest, a pu justement le faire grâce à une légende, celle du meurtre de Liberty Valance, qu'il n'a pourtant pas commis. Sa notoriété et son œuvre reposent donc sur une illusion très problématique. Écoutons, pour terminer, la réaction des journalistes auxquels il vient de révéler la vérité, raconter son histoire.
Ce qui s'est passé ensuite, vous le savez. Je suis parti pour Washington.
Nous sommes devenus un État.
Et c'est moi qui en fus le premier gouverneur.
Vous avez été 3 fois gouverneur, 3 fois sénateur, ambassadeur à la cour de Saint James, puis à nouveau sénateur. Et d'après ce que je sais, il y a beaucoup à parier que vous serez le prochain vice-président des États-Unis.
Vous n'allez pas publier cette histoire, monsieur Scott?
Non, monsieur. Nous sommes dans l'Ouest, ici. Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende.
C'est préférable.
C'était l'intermède philosophique, une chronique présentée par Camille Escamilla.